Oui,
entre les musulmans et au Qatar oriental. J'ai réussi totalement cette
équipe. Moi, j'ai essayé de vous convaincre, en fait, en grâce, en combinant les deux, même si le président pouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui vous donne l'opportunité de vous exprimer sur des faits d'actualité. Le processus électoral est au centre de notre émission. C'est depuis deux semaines que la Commission électorale nationale indépendante, ex-CEI, a lancé la révision du fichier électoral dans six provinces de la RDC, à savoir le Sud Kivu, le Nord Kivu, la province orientale, l'Équateur, le Bandundu et le Kasaï oriental. Cette opération est également en cours dans le Kasaï occidental et le Katanga et elle s'est déjà clôturée dans le Bas-Congo et le Maniema. Au cours de l'opération, des nouvelles cartes d'électeurs sont délivrées et seuls les détenteurs de ces nouvelles cartes peuvent participer aux prochaines élections prévues jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire en novembre 2011. Quel est le point que vous faites à cette étape du processus électoral? Le professeur Gardoli est notre invité, il est vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Pierre Lamégi, Tissim Poutou, sous la supervision de Nicole Ndiaka, réalise cette émission. Paul Badianyama est à la mise en onde et Marie-Chantal Mba à la présentation.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour professeur Jacques Joly.
Bonjour Chantal.
La révision du fichier électoral est une étape importante du processus même. Elle permet d'actualiser les listes électorales, de relocaliser les électeurs pour leur permettre de voter près de leur résidence et pour le candidat de la circonscription électorale aussi peut s'inscrire à ce moment-là. L'opération permet surtout de calculer le nombre des sièges aux assemblées délibérantes, car le nombre est fixé en fonction, bien sûr, du nombre d'électeurs inscrits, mais aussi la carte d'électeur fait office provisoirement de carte d'identité. Monsieur le vice-président de la CENI, dites-nous à présent, est-ce que vous avez un résultat des opérations qui ont été lancées dernièrement dans six provinces et avant dans les deux autres provinces? Ça fait à peu près, c'est presque dans huit provinces, neuf provinces où les opérations sont en cours, professeur.
Oui, merci beaucoup, Chantal. Les opérations de révision du fichier électoral continuent.
Mmh.
Après les deux provinces presque pilotes du Bas-Congo et du Maniema, la CENI a lancé le processus dans la province du Katanga et dans la province du Kasaï occidental.
Mmh.
Et à partir du 2 avril, nous avons lancé le processus dans six provinces, à savoir le Bandundu, l'Équateur, le Kasaï oriental, la province orientale, le Nord Kivu et le Sud Kivu.
Mmh.
Et nous resterons à finaliser le processus avec la ville de Kinshasa.
Et on va recommencer le processus à Kinshasa parce que déjà
Commencé le processus. Nous avons travaillé pendant plus ou moins un mois. Il nous reste deux mois et à intégrer le nouvel donne pour que le fichier, la révision soit plus ou moins complète.
Une question d'harmoniser avec les cartes, que ce soit les mêmes avec les cartes qu'on a lancées.
Tout à fait, les données, les éléments qui doivent intégrer les nouvelles cartes soient harmonisées, comme vous l'avez dit, avec les autres provinces.
Et actuellement, si vous avez un résultat global, provisoire bien sûr, parce que le processus est en cours dans les six provinces, dans les huit provinces où la révision du fichier électoral a été lancée.
Oui, globalement, nous sommes plus ou moins satisfaits, n'est-ce pas, du travail qui s'est fait.
Mm-hmm.
Ça a démarré avec beaucoup de contraintes. Vous savez que nous sommes dans une province où on a mis en place des nouveaux kits qui devaient être initialisés, et avec des opérateurs qui devaient se familiariser, socialiser avec le machine, et un proportionnement du matériel qui devait être validé. Alors, globalement, les chiffres sont assez intéressants. La plupart des bureaux prévus sur l'ensemble des provinces commence à fonctionner plus ou moins, avec des taux notamment au Nord Kivu qui atteint pratiquement 86,36% de bureaux qui sont ouverts. Dans le Kasaï occidental, ça a été notre situation, c'est l'ancienne province. Nous avons plus ou moins 89% de bureaux qui sont ouverts. Et quelques difficultés étaient remarquées dans la province orientale. Et là, le taux qui est le plus faible est déjà au-delà des 50%, donc nous sommes à 53%. Je crois que globalement, les choses semblent marcher et nous sommes confiants que nous allons arriver au bout de notre peine à la fin du processus.
Et nous allons écouter les auditeurs, ceux qui pensent, parce qu'eux, ils sont dans ces milieux-là, ils connaissent les problèmes et ils vont nous proposer des pistes de solutions parce que... Nous allons essayer de les écouter et aussi... Ces auditeurs vont s'y proposer, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer une situation, mais aussi de faire une contribution pour pouvoir décanter la situation, parce que ce processus électoral nous concerne tous. Nous avons déjà Maître Guina, qui est à Mbujimayi, près de Lubumbashi, à l'Idor de Kalangay. Je rappelle nos contacts, le 081-890-6315. Vous nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Maître Guilin.
Oui, bonjour Marie-Chantal.
Mbujimayi, l'opération a été lancée le 2 avril. Vous êtes citoyen, vous comptez prochainement participer aux élections. Dites-nous comment se déroule l'opération de la révision du fichier électoral.
Oui, merci beaucoup pour votre question. D'emblée, je vous dis que le travail s'est fait en dents de scie, dans la mesure où il y a beaucoup de problèmes qui ont été enregistrés sur terrain. Premièrement, ici en Mbujimayi, nous avons fait un travail pour atteindre un objectif de 3 millions de population. Et d'après nos recherches, on a trouvé qu'il n'y avait que 85 bureaux. Alors, ce qui est curieux, c'est quoi? L'enrôlement se fait, hein, d'après les statistiques que nous avons, dans le bureau, c'est 100 à 120 personnes.
Alors,
si nous prenons le statistique échantillon de 3 millions, il faut au moins 350 personnes par jour. Là, c'est un premier recul. Un deuxième, c'est qu'il y a un problème très sérieux de monnayage de gestion au bureau de vote. Et de 3, il y a aussi un autre problème qui est connu d'ailleurs des autorités. Il y a certaines autorités qui prennent des gens en Mbujimayi, qui le délocalisent à l'intérieur pour aller se faire enrôler là-bas et garder leur carte d'enrôlement. Et en dehors aussi de cet aspect, il y a aussi un problème de matériel. À chaque fois, il y a toujours des pannes qui se font enregistrer sur le machine. Et puis, il y a aussi une lenteur dans les opérateurs de saisie. En dehors de Mbujimayi, il y a un problème qui est très sérieux au niveau de l'Odja, parce que l'enrôlement a été suspendu du fait qu'on avait renvoyé tous les opérateurs qui étaient affectés par la CNI de ce côté-là, par l'administrateur du territoire. Je ne sais pas jusque-là qu'est-ce que la CNI a fait, parce que ça risquerait d'avoir de l'incidence sur le 3 mois de délai qu'on nous avait donné.
Et Maître Guilin, on sent bien que vous avez une maîtrise de ce qui se passe actuellement au Kasaï oriental. Quelle proposition pour pouvoir, dans la mesure du possible, dans le délai imparti, pouvoir enregistrer le plus d'électeurs? Quelle proposition vous faites, Guilin?
Oui, encore une fois, merci pour votre question. Moi, je crois que la proposition, parce qu'il y a un problème qui est à envisager, parce qu'il y aura un problème de légitimité qui peut se poser. Parce qu'il faut faire tout de sorte que le délai de 3 mois qui a été imparti puisse être respecté. Je crois que la CNI, pour arriver à ce délai, il faut qu'on puisse multiplier encore davantage, parce que après ce que nous sommes en train d'enregistrer sur le terrain, il faut qu'on multiplie le bureau de vote, ainsi que s'il y a moyen qu'on envoie encore d'autres matériels. sinon ça risquerait de poser de problèmes.
Maître Guilhem, vous suivez l'actualité, l'évolution. C'est vrai que nous avons un représentant de la CENI dans notre studio, mais souvent, ce sera une question des finances, des moyens qui va revenir. Vous pensez qu'est-ce qui peut être fait avec les moyens actuels pour pouvoir maximiser l'inscription des électeurs?
En tout cas, je crois que avec le moyen que nous avons, avec le moyen de bord que nous avons, il faut soit se faire de bureaux rotatifs qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à enrôler beaucoup de gens le plus tôt possible. Et puis, renforcer encore avec d'autres opérateurs de saisie, parce que la plupart de ceux-là qui sont là, c'est de l'apprentissage.
Merci beaucoup, Maître Guilhem de Mbujimaï, pour votre participation à cette émission. Bonjour Alfred.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous êtes à Lubumbashi, les opérations se déroulent en ce moment. Dites-nous un peu, quel est le point que vous faites à cette étape du processus électoral?
Oui, à Lubumbashi, ça se déroule bien, pas tout à fait bien, mais il y a aussi des petites histoires qui compliquent. Par exemple, d'autres machines à notre centre à Afa. Il y avait une machine qui ne fonctionnait pas, on a dû arranger. Deuxièmement, il y a certains policiers civils qui sont mis là-bas pour garder les machines. Alors, ils commencent à demander un peu de l'argent là, 1500 francs pour qu'ils puissent se donner quand on passe à part les gens qui sont arrivés. Pour s'enrôler, ça dérange les gens. Deuxièmement, d'une manière générale, il y a certaines régions, certains contrôles où les machines sont insuffisantes. Donc, il y a vraiment beaucoup de populations dans l'espace, par exemple, 15 km, 20 km carrés, il n'y a pas de centre où il y a un tel centre. Il y a certains problèmes. Puisque quand les gens ne vont pas s'enrôler, ils ont l'envie de se faire enrôler, envie de participer à la vie politique. Ils ne l'ont pas fait, c'est parce que les machines n'étaient pas disposées ou la distance était éloigné. Là, c'est déjà un problème. Les gens, après, ils ont commencé, les problèmes là, seront relevés après. Ça pose déjà problème dans le processus électoral. Deuxièmement, troisièmement, plutôt, madame, le processus électoral, ce n'est pas seulement au niveau de l'enrôlement. Au niveau des tests qui doivent nous régir dans ce processus, la loi électorale et les calendriers électoraux qui tiennent jusqu'à ce jour, nous sommes à 6 mois des élections. Ça peut vraiment contribuer d'une manière négative dans le processus électoral.
Mais quelles sont vos propositions, Alfred?
Deuxièmement, ce qui concerne l'enrôlement, les policiers qui doivent garder les biens conscientisement et non pas demander la loi pour faire de manière là corrompue. Encore, là où il n'y a pas assez de machines où les distances sont très longues, le gouvernement doit prendre ça en considération. Ajouter d'autres machines, ouvrir d'autres centres pour permettre à la population de participer. En ce qui concerne les faits, le calendrier électoral et la loi électorale, les députés, c'est eux qui doivent voter ces textes-là. S'ils ne le font pas avant, donc, un état secret, là, nous allons le condamner, puisque c'est à eux, ils devraient s'acquitter de ça, même avant, puisque le texte doit régir les faits.
Merci beaucoup, Alfred de Lubumbashi, pour votre intervention. Vous êtes revenu encore sur tous ces problèmes que connaît la CENI, mais vous souhaitez qu'on puisse, vous avez mis un accent sur la loi électorale aussi, le calendrier électoral. Nous allons y revenir, Alfred de Lubumbashi. Bonjour, Alidor.
Bonjour, madame, c'est Alidor Mukendi à Saint-Marie.
Oui, Alidor, à part le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de centres d'inscription, ça c'est connu, les opérations ont déjà commencé à Kananga, vous avez atteint près de 90% des centres d'inscription qui ont déjà ouvert. Dites-nous, Alidor, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait de plus au Kasaï occidental pour que ces opérations se déroulent dans le bon sens?
Et merci madame. D'abord, je veux remercier parce que même ici à Kananga, Pasteur Angoli Mouloune qui est ici pour les frères de gouverneur. Mais c'est juste à Kananga, c'est quand même bien. Vous voyez qu'en 2006, Kananga a été boycotté. d'aller vraiment pour faire vraiment beaucoup. Mais cette année, vraiment, je vous l'ai dit, vraiment, il y avait un engouement. À tout le monde, vraiment, est tellement sensibilisé pour aller voir les cartes. D'abord, ça, c'est mieux. Pourquoi? Vous voyez, les députés sont ici, c'était vraiment moins que toutes les provinces. Il y avait cette députée ici à Ville de Canard. Mais je pense que cette année, il y a beaucoup de gens. Là, je pense que
c'est bien. Il y a une sorte de affluence au niveau des centres d'inscription. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se faire inscrire. Est-ce que vous avez autre chose à dire, Alidor?
Oui, c'est que je voulais dire c'est quoi. J'ai remarqué, il y a quelques centres, hein. Il y a même les chefs de centre. Il y a quand même des gens qui disaient, on a oublié les gens des fois. Au moins, les gens, il y avait trois cartes, deux cartes. Mais il s'agit de quoi? Il n'y a pas moyen de faire peut-être de bloquer ça.
Donc, c'est à votre préoccupation. Merci. Bonjour, Okidi.
Bonjour, madame.
Okidi, vous êtes à Kisangani, nous vous écoutons.
Ok, merci beaucoup de pouvoir m'accorder la parole. Moi, je pense que c'est fondamental pour faire une révision de juge électoral. Comment ça va un peu, parce que il y a peu de femmes économiques qui sont laissées contre les opérations, mais ça promet quand même. Nous espérons que cette marche-là, puisqu'on peut vraiment réussir une bonne chose. Alors, il y a un problème. Moi, je pense que vous avez suivi avec nous. Il y a un autre endroit de la province orientale où les agents de l'économie sont en charge de la population. Vraiment, ça fait honte. C'est pourquoi, vraiment, il faudrait quand même la finir, pour quand même voir essayer de près, et savoir comment prendre ces agents en charge. De même aussi, dans la province de Kato Oriental, nous avions appris qu'il y a une autorité locale qui a refoulé les agents de la finir. Mais seulement, il faudrait quand même que le gouvernement puisse prendre des mesures possible pour sécuriser ces agents de la CENI. Puisque sinon, vraiment, ça va nous amener à d'autres histoires.
Vous vous inquiétez de la situation dans le Kasaï oriental aussi. Vous avez informé qu'il y a certains agents de la CENI qui sont pris en charge par la population. Merci au Kidi de Kisangani pour votre participation. Nous avons un message qui nous vient de Mick Mona Cessé. Il nous écrit à partir de Lubumbashi. Il écrit ceci, la révision du fichier électoral connaît des interruptions faute d'approvisionnement suffisant en carburant et l'absence des opérateurs de saisie. Il y a notre auditeur, je vous écris à travers notre adresse internet pa@radiocapi.net. Il nous écrit à partir de Goma, et ici à Goma, tout va mal, les Congolais s'enrôlent, moyennant une somme surtout pour avoir le jeton, tandis qu'il y a, il dit qu'il y a même des Rwandais qui s'enrôlent librement. Voilà une déclaration que nous a envoyé notre auditeur de Goma, et je rappelle à nos auditeurs que notre invité est Monsieur Jacques Joly, il est le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, il est dans notre studio, nous allons écouter ses réactions face à tous ces avis des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Joly, vous avez suivi plusieurs préoccupations, à part le nombre qui trouve assez insignifiant des centres d'inscription. Nous avons eu des propositions, mais parlons d'abord du mécanisme qui est mis en place pour limiter les fraudes, parce que cela est revenu à plusieurs de nos auditeurs ont fait allusion à cela. Qu'est-ce qui est mis en place pour limiter les fraudes? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'on ne puisse pas arriver à avoir un électeur qui puisse posséder plusieurs cartes d'électeur?
Merci beaucoup, Chantal. Mais j'aurais voulu qu'on aborde d'abord les questions d'ordre général, technique, et puis on va entrer aux questions spécifiques. Je crois que en écoutant mes compatriotes de toutes ces provinces, on remarque que globalement les choses marchent relativement normalement. Mais il y a énormément de problèmes. Quels sont ces problèmes? Les problèmes, c'est d'abord les problèmes de centres d'inscription. Nous avons mis, le système qui a été mis, c'est d'avoir un centre d'inscription par groupement, ce qui pose énormément de problèmes de distance. Et avec ce centre d'inscription, les problèmes géographiques, vous savez, nous avons un pays de 2 345 000 km², les infrastructures sont très faibles, il y a une faiblesse administrative, n'est-ce pas, dans la gestion des personnes et autres. Alors, un centre d'inscription par groupement, et qu'il fait 2500 km² au moins par centre d'instruction. Et nous avons eu la possibilité de découpler les centres dans les, ce qu'on appelle les groupements éclatés, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va au-delà, on ajoute au moins un centre. Mais cela ne suffit pas. Voilà pourquoi, au niveau de la CENI, notre objectif, c'est de rendre le processus d'enlèvement et de vote au moins pénible. Il faut un service électoral de qualité. Et nous voulons qu'aucun électeur puisse faire au plus de 30 km. D'où la nécessité, et ça a été souligné, d'acquisition de nouveaux kits. Nous avons posé le problème au gouvernement pour que nous puissions avoir au moins 3000 nouveaux kits. Le gouvernement nous a compris, nous a accordé plus ou moins 1500 kits. Le pasteur président vient de faire un voyage à l'extérieur où nous avons ramené encore plus ou moins 1000 kits. Donc si nous avons 2500 ou voire 3000 kits, ça va nous permettre de d'ouvrir de nouveaux bureaux. Vous savez qu'en 2005-2006, nous avions plus ou moins 9300 bureaux. Actuellement, on a réduit le nombre de bureaux à plus ou moins 7500, ce qui pose un problème. Nous, nous voulons remonter et arriver à plus ou moins 15 000 bureaux, de sorte qu'il y ait le bureau le plus proche possible au niveau de chaque groupement. Donc, ce problème de distance résolu, il faut résoudre le problème technique.
Mais ça peut faire combien de temps? Combien de temps? Après combien de temps on pourrait avoir des nouveaux
kits pour un mois ou tout au plus, nous devons résoudre cette question-là pour que nous avons une contrainte de temps, nous n'avons que 3 mois pour réussir, n'est-ce pas, cette opération. Donc il faut résoudre les problèmes urgents dans les 3 mois. Voilà pourquoi, en attendant que ces nouveaux kits arrivent, nous allons découpler notre capacité à répondre aux préoccupations sur le terrain avec ce qu'on appelle les CTT, donc les opérateurs des techniques sur le terrain, qui vont essayer de régler le problème des kits, surtout dans le Katanga et dans les Kasai, où il n'y a, n'est-ce pas, de vieux kits. Mais quand cela ne tienne, le résultat nous rassure plus ou moins. Vous savez, au Katanga, aujourd'hui, nous avons atteint un chiffre qui avoisine 1 700 000 enrôlés, pour une population attendue de plus ou moins 3 500 000, 3 600 000, 3 800 000, voire 4 000 000. Donc, nous continuons à travailler pour répondre à ces problèmes soulevés par les uns et les autres de fourniture. Donc, nous faisons une chaîne logistique qui puisse répondre à ces préoccupations. Alors, il y a des problèmes spécifiques qui sont posés, notamment la question de monnayage. C'est un problème, nous devons dire à nos compatriotes. Les militaires qui sont mis en place pour assurer la sécurité électorale fonctionnent dans un système qui est soutenu à la fois par les gouvernements, mais surtout par la communauté internationale. Ce qui fait que ces militaires doivent être pris en charge par la communauté internationale. Mais ils ont commencé le travail sans être financés, donc ils seront payés après. Or, ils viennent là du matin au soir, donc ça nous pose un problème, n'est-ce pas, de leur...
Donc vous permettez ce monnayage?
Non, nous ne permettons pas. Nous demandons, nous faisons un effort pour les conscientiser et nous sommes en train de prendre des décisions au plus haut niveau pour qu'avant que le fonds prévu par la communauté internationale arrive, que nous puissions prendre nos propres compatriotes en charge.
Dans votre temps, c'est un prévu.
Non, mais il y a aussi ce sont des cas isolés. Globalement, ce sont des gens qui font un travail de forte conscience et beaucoup de compatriotes. Alors, ces problèmes de jetons monnayés, on nous a signalé dans plusieurs endroits.
Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour que la carte, normalement, des électeurs, on la délivre gratuitement?
Gratuitement. Le premier objectif, c'est d'abord la conscientisation de ces hommes. Et dans une opération de corruption, il y a toujours un corrupteur et un corrompu, il faut que la coupe, il y ait une responsabilité citoyenne. Mais entre-temps, il y a une responsabilité de la CENI de prendre en charge tout son personnel, les militaires, les opérateurs de saisie. Et ça aussi, ce n'est pas un problème lié à la CENI en particulier. Vous savez, le transfert d'argent à l'intérieur du pays est très difficile. Notre pays a un très faible taux de bancarisation. Donc nous envoyons, nous utilisons un partenaire, alors il faut le citer, Soficom. Or, il n'est pas à tous les points les plus reculés avec les contraintes, avec l'enclavement. Ce qui fait que parfois nous devons commencer l'opération alors que notre partenaire ne suit pas. Mm-hmm. Et dans les 2 semaines ici, nous sommes en train de pousser notre partenaire pour que nous puissions, n'est-ce pas, satisfaire
de son notre auditeur de Kisangani a dit qu'il y a des agents qui sont pris en charge par la population. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser en fait cette entraide parce que ce processus, c'est vrai qu'il est pris en charge par le gouvernement, sur le plan financier, avec ses partenaires, et la CENI exécute en fait le programme que vous avez proposé, mais est-ce que vous ne pensez pas que sur le plan, par exemple, des communautés, ils peuvent apporter leur apport pour le bon fonctionnement?
Non, nous engageons pas sur ce point-là. Il y a le personnel qui est là, notamment les opérateurs de saisir les autres. Là, ils ont conclu un contrat soutenu par le projet PASS, qui consiste, n'est-ce pas, à être payé dès qu'ils auront travaillé. Vous voyez? Donc, mais nous, au niveau de la CENI, la semaine prochaine, je crois que tous les membres du bureau seront à l'intérieur pour essayer de résoudre ces problèmes pratiques. Parce que c'est très facile de dire que non, on vous engage, on va vous payer à la fin du mois ou après 45 jours. Mais avant qu'on soit payé, on est déjà en train de travailler. Et il se pose un problème de survie, surtout lorsque l'agent est, n'est-ce pas, délocalisé. Donc, ce sont des problèmes réels pour lesquels nous cherchons à résoudre ou trouver des solutions urgentes et nous sommes conscients que la population soit
contente. Mais revenons sur cette question de fraude alors.
La question de fraude, dans une opération lourde comme celle-là, où nous voulons arriver à enrôler au moins 33 millions ou 31 millions de Congolais, il y a toujours des fraudes. Quels sont les mécanismes? Il y a d'abord les mécanismes pénals. Il est dit dans la loi portant enrôlement que celui qui commet cet acte-là est punissable, n'est-ce pas, l'article 45, par le code pénal. Alors, deuxième mécanisme, c'est là où je voudrais attirer la responsabilité citoyenne de tous nos compatriotes. C'est que le processus d'enrôlement exige une vigilance de l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire la société civile, le média, les partis politiques et tous les citoyens. C'est-à-dire chaque jour, dans un centre d'instruction, on affiche les photos et les identités des personnes qui se sont enrôlées pour permettre que dans les 7 jours, toute personne qui constate une anomalie puisse informer, n'est-ce pas, le membre, le président, et que celui-ci puisse notamment rayer le nom de cette personne et éventuellement actionner les poursuites. Donc, si les citoyens ne peuvent pas dire que telle personne s'est enrôlée deux fois, à ce stade-là, il est difficile. Donc, ici, il s'agit d'une responsabilité globale et d'une responsabilité
commune. Mais combien de c'est malin, ils ne vont pas aller dans le même centre pour se.
D'accord.
Pour
alors, je vais vous dire deuxième système. Lorsque nous aurons terminé l'enrôlement partiel, toutes les listes vont être envoyées, centralisées. Et là, il y a une opération qui dure parfois un mois, qu'on appelle le dédoublonnage, qui va nous permettre à traquer tous les doublons par le matching. Donc, nous allons arriver à un certain moment à découvrir, n'est-ce pas, ces doubles enrôlements et à rayer notamment par deux systèmes, le système alphanumérique qui nous permet de détecter plusieurs noms et surtout par les systèmes, n'est-ce pas, biométriques, d'empreintes digitales et qui va traquer tous ces doublons. Donc, de sorte que lorsque nous aurons nettoyé ces fichiers, nous aurons alors une liste électorale nettoyée. Mais les citoyens doivent savoir qu'à la fin de l'opération, la liste sectorielle sera affichée dans toutes les provinces et que les citoyens auront encore l'opportunité, à travers le parti politique qui s'est organisé, la société civile, à dénoncer. Donc, il faudra que nous puissions nous approprier le processus électoral.
Mais c'est cette question de notre auditeur de Goma. Il a constaté qu'il y avait des personnes qui ne sont pas de nationalité congolaise qui se sont enregistrées.
Si cette question.
Surtout dans les zones frontalières.
Tout à fait.
Il y a des frontières naturelles.
La République démocratique du Congo a plus ou moins des voisins et nos frontières sont parfois des équimoires ou des difficiles.
Pour eux, hein, voilà.
Alors, maintenant, quel est le travail d'un chef de centre? Lui doit enregistrer une personne sur base des prescrits de la loi et des documents demandés. Donc, si une personne vient avec l'une des pièces exigé, à savoir l'ancienne carte de 2005-2006, soit son passeport, son attestation valant certificat de nationalité, toutes ces pièces-là, c'est une pièce que lui travaille. Donc, il appartient encore ici à nous Congolais, de dire que telle personne qui a été enrôlée n'est pas de nationalité congolaise et de donner une pièce. Et sur cette question du Rwanda, nous venons d'envoyer une mission particulièrement dans cette province. Et nous devons travailler avec la MONUSCO pour aller dans certains bureaux avoir le preuve que telle personne est de nationalité rwandaise. Là aussi, il ne faut pas simplement s'arriver à dénoncer pour qu'on tombe dans un mythe totalement de l'ennemi permanent qui est là. Il faut nous donner les preuves. Et à partir des preuves, nous allons agir. Mais je voulais seulement particulièrement souligner quelque chose que Maître Guilain a souligné, soulevé. La question de l'Odja. Il est vrai, c'est vrai, que la CENI a pris une mesure conservatoire. Parce que pour la CENI, il est intolérable, inadmissible qu'on puisse toucher à l'intégrité physique de son personnel pour des raisons tribales et ethniques. Donc, dans tout coin de la République, on s'attaquera à un agent de la CENI parce qu'il n'est pas originaire d'un territoire, nous ne marcherons pas. C'est un droit constitutionnellement garanti. Tous les Congolais sont chez eux au Congo et aucun homme politique ne nous amènera dans ce schéma-là. Et nous allons rester sûrs sur cette question. Donc, tant que l'autorité politique ou administrative de l'Odja ne sécurisera pas notre personnel, nous ne vivons pas le bureau dans ce territoire.
Mais ce sera assez difficile parce qu'il y a un temps qui est assez indélé.
Et chacun assume ses responsabilités, madame. Si chacun assume ses responsabilités, nous ne pouvons pas envoyer les agents. La loi électorale demande que la police et l'autorité locale puissent sécuriser les agents. Si l'autorité locale commence, elle la première, à montrer le doigt pour dire que tel n'est pas originaire de telle province, de tel territoire qu'il doit quitter, où est-ce que nous allons?
Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une situation assez compliquée. Vous êtes en train de décrier le comportement, mais est-ce que vous pensez que cette population de l'Odja, à cause d'une personne, ne peut pas participer à ces opérations de rédiger de fichiers électoraux?
C'est une conservatoire, nous allons...
Plutôt vous attaquer d'abord à cette personne qui cause le danger. Et peut-être, dans cette mesure-là, si on peut dire, sortir la...
Nous avons écrit au gouvernement, au plus haut niveau, et nous allons sommes en contact avec le gouverneur de la province, et il y a une mission de la CENI qui va aller sur place dans la province du Kassai-Oriental pour descendre à l'Odja et mettre les choses en place, parce qu'il est vrai, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas la population qui doit pâtir des égarements de nos autorités politiques administratives.
Nous allons écouter les autres auditeurs. Je rappelle aussi notre numéro de SMS, c'est le 081-416-78-94, 081-416-78-94. Écrivez-nous un texto assez court mais clair et nous allons le lire pour vous sur nos antennes. Nous avons aussi Christian, Martin, Boniface que nous allons suivre tout de suite après ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Christian.
Bonjour Madame Marie Chantal Doumba, bonjour à professeur Jacques Moudelou, ainsi qu'à tous les auditeurs.
Christian, quel est votre rapport à cette émission?
Mais en fait, avant de donner ma proposition, je voulais dire ceci. Vous savez, ici en Bandaka, précisément, cette opération se déroule quand même bien malgré les difficultés. Mais j'ai un point à souligner et je voudrais que le professeur de quoi puisse avoir suivi ces points, cette proposition puisse me prendre de répondre. Parce que le vendredi, je m'étais rendu à un centre d'enrôlement. Permettez-moi surtout de ne pas toucher les noms de ces gens, sinon ça sera une accusation directe. Je m'étais rendu à un centre d'enrôlement. Je suis là, j'ai fait au moins 30 à 35 minutes. Je ne suis pas encore fait enrôler. J'étais là en fait d'attente et après, quelques minutes après, je vis un groupe d'élèves. En fait, ce sont des élèves finalistes de la même école. Ils sont venus et après moi et puis ils sont entrés là-bas, ils se sont fait enrôler pendant que moi j'attendais là. Quelques heures après, quelques minutes après, je crois 50 à 55 minutes, j'ai essayé de poser une question à un prof qui était à côté. Il m'a dit que ce sont des élèves de la même école. Mmh. Bon, vous savez, la plupart des femmes se trouvent dans des écoles et ce sont beaucoup plus les préfets qui sont, je crois, les chefs de femmes de ces écoles-là. Bon, à part là, je voudrais aussi, avant de poser mes deux questions, essayer d'arriver à la proposition. Je voudrais souligner aussi un point important. Je crois que M. le professeur vient de les répondre. Il a dit par rapport aux gens qui se font enrôler deux à trois fois. Mais je voudrais que la CENI puisse, encore une fois, prévoir des mesures qui peuvent des fois sanctionner les gens. Parce que vous savez, les Congolais sont malais, hein, ils ne se font pas enrôler dans un seul sens. Ils parlent même bas, même dans une même ville.
La loi prévoit que la question...
Si à l'intérieur de la province, oui, c'est ça, on est enrôlé dans le conseiller.
Question. S'il vous plaît, Christian, allez directement au but. Si vous avez déjà constaté que vos propos ont été déjà... on a déjà dit cela une fois, essayez un peu de passer et amener quelque chose de nouveau. Parce que là, vous avez dit que vous avez des propositions. Est-ce que nous pouvons aller, s'il vous plaît, Christian, aux propositions? Alors là, c'est difficile, on n'arrive pas à s'entendre, à communiquer avec Christian de Mbandaka, mais nous avons suivi... quand même ce qu'il voulait nous dire. Nous prenons Martin de Kinshasa, bonjour.
Bonjour madame. Donc, je voulais poser le problème au professeur Joly.
Oui.
Bon, à propos du sujet électoral.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il va associer le parti politique? Est-ce qu'il travaille seulement avec les gens de la de commission électorale indépendante?
Oui, s'il vous plaît, Martin.
Est-ce qu'il y a comme des autres propositions valables qui peuvent facilement faire un bon travail?
Oui.
Il semblait dire qu'il faut en faire un bon travail.
Vous comprenez, Martin, on voudrait avoir plus de précision sur votre préoccupation. Associer les partis politiques à quel niveau? Donc, vous souhaitez...
Au niveau de l'opération de fichier électoral.
Donc, vous...
Les partis politiques doivent surveiller les gens qui doivent, les membres qui doivent être enrôlés.
En tant qu'observateur, au cours de l'identification, de l'enregistrement des électeurs, c'est ça?
Oui.
Merci, Martin. Pour votre intervention. Bonjour Boniface.
Bonjour madame.
Boniface de Goma, nous vous écoutons.
Oui madame, c'est avec un grand regret que nous sommes en train de constater ce qui se passe ici, à la province nord, qui est vraiment précisément à Goma, c'est bizarre vraiment.
Et qu'est-ce qui se passe?
Moi, j'ai attribué directement cette erreur parce que nous avons commencé ce processus. Premièrement, en 2006, il n'y a pas eu de recensement. On a fait ce qu'on a fait l'année passée. En 2006, là, on avait accepté d'enrôler même les Rwandais, les étrangers, parce que c'était terrible. Nous savons très bien que le Congolais est toujours différent. Morphologiquement, si tu vois un Congolais et si tu vois un étranger, c'est facilement de l'identifier, de discerner, de savoir. La semaine antérieure, il y a eu des problèmes ici dans un centre où je m'étais enrôlé moi-même. C'était des fêtes. Les jeunes se sont énervés pour s'attaquer aux étrangers que nous-mêmes nous identifions. Nous savons très bien que ce sont les étrangers qui se sont attaqués. Là-bas, vraiment, il y a eu des désordres ici au nord qui vous. Il y a eu des désordres dans ce centre. Il y a ça de deux centres ici.
Mmh.
Et puis, j'aimerais proposer ceci.
Oui.
Si la CENI et puis les acteurs politiques, la société civile enfin, pouvaient nous permettre à d'abord faire de sorte que, bon, je ne peux pas laisser aussi la sécurité du pays, je vois par là, l'ANR, la police, l'armée aussi, congolaise. Qui peuvent nous permettre à créer quand même la perméabilité de nos frontières. Parce qu'ici, c'est grave. Ici,
donc,
c'est
à votre avis, il faudrait fermer les frontières pendant cette période?
Oui, on peut les faire. Nous avons vu au Rwanda, la fois passée, on avait fermé les frontières quand ils avaient voulu organiser des élections.
C'est les élections,
au Bimbura, ici, on avait fermé les frontières. On avait les actions nos frères congolais qui étaient là-bas.
Donc, vous proposez qu'on puisse fermer les frontières.
Pardon?
Bon, c'est une proposition que vous faites, vous estimez, regardez ce que vous avez vécu à Goma, des Rwandais, selon vous, qui se sont fait enrôler. Mais n'oubliez pas, Boniface, notre invité l'a souligné, qu'il y a une commission qui est descendue à Goma pour essayer de voir comment ça se passe à ce niveau-là, essayer d'améliorer la situation et d'abord faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement à Goma. Mais aussi une chose, Boniface, vous ne pensez pas que c'est un peu fort de pouvoir caractériser les gens ne plus que par leur faciès? parce qu'il ressent, parce qu'il y a une morphologie, donc vous pensez que cette personne ne peut pas être congolaise. Vous ne pensez pas que c'est assez fort, cela?
Ah oui, ce n'est pas du tout fort. C'est quand même visible, comme ça, on voit seulement qu'on s'est identifié.
En tout cas, merci beaucoup, Boniface, pour votre intervention. Nous prenons Neville de Canada. Bonjour, Neville.
Bonjour, Marie-Chantal, et bonjour à l'invité.
Nous vous écoutons.
Marie-Chantal, bien, les opérations de la révision du fichier électoral se déroulent bon train au Qatar occidental, généralement, à part certaines observations que je voudrais faire. Par exemple, au territoire de Mouika, il y a des électeurs qui doivent effectuer plus de 200 km pour aller chercher à s'enrôler. C'est vraiment une façon de décourager les électeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait enrôler, parce qu'il y a par exemple 50 villages qui doivent aller dans un seul village pour faire l'enrôlement. C'est vraiment grave. Mais ce que moi j'étais posé à la CENI, c'est quoi par exemple, heureusement que le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante le dit tout à l'heure qu'il faut qu'on ajoute encore certains bureaux de vote. Et au-delà même, il faut dépasser le nombre de bureaux de vote qu'il y avait en 2006, parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas encore atteint 18 ans venaient de les atteindre. Alors, il fallait augmenter le nombre de bureaux de vote, même s'il faut d'abord aller par les recensements. Du point de vue numérique, je crois que la population de l'Antilles démocratique du Congo a doublé depuis 2006 jusqu'à maintenant. Je crois qu'il était important que la Commission électorale nationale indépendante qui pensait à ces problèmes-là. Donc, il faudra généralement que l'on trouve cette solution palliative. Sinon, je crois, moi-même, la vie est une façon de vouloir une chose et son contraire à la fois.
Merci.
Mais entre-temps, les électeurs sont découragés, ils n'ont pas la possibilité d'aller s'enrôler.
Merci beaucoup, Neville, pour votre intervention. Nous avons Saloum Joseph de Lumbashi qui décrit aussi cet acte. Il dit qu'il faut payer 1000 francs aux policiers pour pouvoir accéder au centre. Il y a Nico du Cassier Occidental, il se pose la question quand le moment où notre CENI pourra donner correctement des salaires. Je ne sais pas si on appelle ça des salaires à ces agents, parce qu'ils trouvent qu'il y a aussi des problèmes concernant les frais ou bien les primes que doivent recevoir les agents de la CENI. Et nous avons Gabriel Iliakalina, il est agent de la CENI. Bonjour Gabriel.
Bonjour ma Marie, je vous félicite d'abord de m'avoir accordé la parole.
Et Gabriel, c'est vrai qu'il y a ce problème-là, il y a beaucoup de gens dans un centre pour se faire enrôler. En moyenne, à votre avis, il faut combien de minutes pour qu'un agent de la CENI puisse arriver à enregistrer une personne?
Bon, plus ou moins 15 minutes.
15 minutes par personne. Et nous vous écoutons, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Gabriel?
Oui, ce que je peux dire tout simplement, il faut que la CENI disponibilise beaucoup de matériel et augmenter aussi des centres d'enrôlement. Parce que, par exemple, ici chez nous au Maniema, nous étions connectés avec des ordinateurs. Or, les électeurs étaient nombreux. Il fallait avoir beaucoup avec des patience pour
être enrôlé. Tout le monde.
Quand le nombre d'enrôlés est en masse, ils essaient de trouver les élections qui vont se passer.
Merci beaucoup, Gabriel, pour votre intervention. Nous allons redonner la parole à notre invité du jour.
Parole aux auditeurs.
Nous sommes revenus presque sur presque les mêmes problèmes. Votre réaction, monsieur le vice-président?
Effectivement, donc les problèmes que nous trouvons sur l'ensemble du territoire sont presque les mêmes problèmes. Donc la réclamation des kits, c'est une demande forte sur l'ensemble du territoire. La réduction de la distance, les gens sont obligés de faire des très longues distances, 120-130 km. Et si on voit que les personnes qui votent, il y a des vieilles, il y a des femmes enceintes, ça pose certainement des problèmes, des personnes à mobilité réduite. Donc cette demande de réduction des facilitations, comme je dirais, d'enrôlement, c'est une demande qui est prise en compte, et nous allons, comme je l'ai dit, essayer de résoudre. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, nous avons commandé plus ou moins 4000 tentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la mobilité, comme les gens ont demandé, la mobilité, c'est une fenêtre à la fraude. Parce que le bureau d'inscription sera transformé en bureau de vote. Donc, si on vous enrôle de manière mobile, mais on risque d'avoir beaucoup d'électeurs flottants comme en 2006. Et ces électeurs flottants, c'est ce qui nous crée des problèmes dans la maîtrise, n'est-ce pas, de la liste et de la fraude. Voilà pourquoi nous avons choisi notre schéma, le schéma de sédentarisation. Or, dans la plupart des groupements, il n'y a pas, n'est-ce pas, de structure d'école pour recevoir le bureau de vote. Je vous prends l'exemple. Entre Lubumbashi et Kasumbalesa, ça vous faut plus ou moins plus de 100 km. Or, ces 100 km, vous n'avez pas un seul bureau de vote sur ces périmètres-là. Donc, il faut installer de nouveaux bureaux de vote. Nous avons commandé des tentes et nous avons commandé, n'est-ce pas, des kits. Et nous allons avoir de nouveaux personnels à former ou à redéployer pour que nous puissions atteindre la population.
Il y a un auditeur qui voulait savoir comment vous travaillez avec les partis politiques.
Je voudrais dire à notre ami que la responsabilité de la gestion du processus électoral est techniquement assumée par le parti politique, pas par la CENI, mais politiquement, elle est prise en charge par les acteurs politiques majeurs que sont le parti politique. Lorsque vous voyez la loi électorale ou la loi sur l'enrôlement, les partis politiques doivent déployer les témoins. Et l'article 31 de la loi dit que les témoins surveillent toutes les opérations. Ils doivent même vérifier la fiabilité du programme des ordinateurs. Ils ont le droit d'exiger la consignation de toute observation procès-verbale avant que celui-ci ne soit placé sous pli scellé. Donc, dans tous les bureaux, les partis politiques doivent déployer les témoins. Et en plus, il y a des observateurs. La société civile doit déployer des observateurs. Les journalistes doivent être déployés. Lorsque nous appelons les gens pour venir, n'est-ce pas, s'enregistrer, n'est-ce pas, et être accrédités, les partis politiques ne sont pas là. J'étais au Katanga. Vous trouvez des bureaux où il n'y a aucun représentant ou deux représentants des trois partis politiques. Les autres ne sont pas là. Or, la fraude se prépare à ces niveaux-ci.
Il y a un auditeur qui est revenu sur la loi électorale. Oui. Parce qu'il faudrait... Il y a eu une proposition de loi qui n'a pas été reçue au niveau de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, où est-ce que vous en êtes? Parce qu'il y a certaines choses qui devraient être modifiées.
Encore une fois, il s'agit, comme je vous dis, le processus électoral, ce n'est pour un juste processus à la fois complexe mais intégré. Nous, au niveau de la Commission nationale électorale, nous attendons la loi électorale qui est l'outil par excellence de notre travail. Or, la loi qui est là, la loi 06-06-06, est plus ou moins dépassée. Il y a une proposition de loi qui est en discussion. Nous attendons de l'Assemblée. Nous leur avons dit que pour nous, une date contrainte, c'est le 30 avril. Donc, si d'ici la fin du mois d'avril, nous n'avons pas une loi électorale, il nous sera difficile qu'on puisse nous demander d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. Une chose est de demander des délais constitutionnels, mais une autre chose est d'assumer ses responsabilités pour que ces délais constitutionnels soient respectés. Si les gens sont en grève, réel ou fautif, moi je ne sais pas, mais il faut que nous ayons la loi électorale. Parce que c'est de la loi électorale qui va découler maintenant les calendriers électoraux. Parce que la loi électorale va nous permettre d'avoir les annexes, notamment la répartition des sièges. Donc chacun de nous a sa responsabilité, comme l'a bien dit notre ami, et il est important, n'est-ce pas, que les choses.
Donc il est difficile actuellement d'avoir un calendrier fixe s'il n'y a pas de loi électorale.
Même si nous l'avons, même si la loi électorale n'est pas là, ça devient un calendrier fictif. Alors, autre chose qu'on m'a posé, on a posé la question. Donc, j'ai parlé de la surveillance qui doit être plus agilite. Effectivement, comme notre ami de Gaume a dit, il est difficile de remplacer un recensement administratif ou scientifique par une opération d'identification et d'enrôlement. Nous l'avons fait en 2005 parce que nous estimions que les structures administratives étaient suffisamment faibles et qu'il fallait. Mais ça, c'est une responsabilité qui n'est pas la responsabilité de la CENI. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler la révision sur base, n'est-ce pas, de ce qui a été fait en 2005-2006. Donc la question de l'enrôlement probable des étrangers, c'est une question fondamentale. Sur laquelle chacun de nous doit être vigilant. Mais il ne faut pas en tomber, comme vous l'avez dit, dans les délits des patients. Imaginez-vous un chef de centre qui refuserait d'enjouer quelqu'un qui a sa carte de 2005 ou 2006, comme l'a dit, ou qui a son passeport n'est pas la CENI qui délivre le passeport, madame. Mmh. Donc, si quelqu'un est porteur du passeport, la CENI est obligée de l'enrôler dès lors qu'il est dans le ressort de sa résidence principale. Il n'a fait que des autres compatriotes de dénoncer illico presto, dans ce bureau-là, que ce monsieur-là a été mangé. Alors, la CENI peut entamer une procédure qui pourrait être complétée par la procédure.
Et concernant alors les Congolais qui sont à l'étranger, doivent-ils attendre la révision de fichier, plutôt de la loi électorale, pour savoir si eux, ils vont participer aux prochaines élections?
Madame, la question des Congolais et de l'étranger, c'est une question qui est préoccupante. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 10% de notre population est à l'étranger. La diaspora pèse énormément dans l'activité économique de notre pays.
Mmh.
Vous savez, aujourd'hui, les baptêmes, les communions, les collations, les enterrements, les naissances, tout, c'est la diaspora qui prend en charge cela. Oui, le financement de la diaspora, on dit même,
n'est
pas négligeable, et attend parfois au départ, c'est le financement de l'aide publique qui prend en charge. Mais aujourd'hui, la question c'est, est-ce que techniquement, au niveau de l'espèce, il faut que ceux qui élaborent la loi puissent, n'est-ce pas, le faire et qu'on puisse assumer le coût, n'est-ce pas, de cette corporation. Mais d'ores et déjà, il n'est pas exclu qu'un compatriote qui vit à l'étranger puisse venir
s'enrôler
et venir voter.
Ça va coûter encore cher. Nous avons plusieurs auditeurs qui veulent participer à cette émission, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous prenons Kambale, vous êtes à Butembo, bonjour.
Bonjour, ici c'est Kambalo, business team de Butembo.
Oui, en une minute, quelles sont vos propositions? Parce que là, nous n'avons pas beaucoup de temps.
Ok, j'aimerais dire ceci. Si vous avez mieux suivi les entrepreneurs de Goma, c'est toujours le problème de la révision du fichier électoral qui est à porte ouverte. Nous, à l'Ouest, nos amis ou tout le monde savent facilement. Or, on ne sait pas leur nationalité.
Mmh.
Et ils n'ont pas les anciennes cartes de 2006.
Encore un problème que vous voulez souligner. À votre avis, quelles propositions pour pouvoir éviter cela?
Mais pour cela, il faut que ceux qui travaillent au centre, qu'ils voient, qu'ils soient vigilants et tout ça.
La vigilance. Merci Kambale de Butembo. Steve, vous êtes à Beni. Vous, si vous avez une minute, bonjour.
Oui, bonjour, malheureusement, il y a beaucoup à dire dans une minute.
Oui.
Je crois que c'est une très bonne proposition.
Oui.
Comment notre gouvernement, s'il peut pouvoir prendre cela les élections, en finalité, parce que le problème, c'est que trop souvent, c'est aussi des problèmes d'abord du financement. Ça, c'est un petit grand problème. Alors, moi, j'ai préféré que, comme proposition, je crois, et même pas maintenant, mais pour l'avenir, que, et à un moment, les dépenses des élections sont échelonnées chaque année, pas seulement attendre le dernier mandat de la législature pour maintenant soutenir les élections. C'est maintenant ce qui nous a soutenu les
élections. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Nous nous excusons parce que là, vraiment, nous sommes en train de jouer. Nous n'avons plus que 5 minutes pour le temps de redonner la parole à notre invité. Nous avons Rola qui nous a écrit, Kigabi, Douvira, Alain, Sakumba, Nico, Ngadjou, Biangandou. Donc, vous êtes très, très nombreux à vouloir participer à cette émission. Nous allons remettre la parole à notre invité. Au regard du calendrier qui a été publié la dernière fois, les élections sont prévues pour l'élection présidentielle et législative nationale le 27 novembre 2011. Aujourd'hui, nous sommes en avril, bientôt dans moins de octobre, avril, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, dans moins de 6 mois sont prévues ces élections. Dites-nous, avec ce temps qui reste, la loi électorale qui n'est pas encore discutée jusqu'à présent à l'Assemblée nationale, avec ce temps qui reste, la révision du fichier électoral qui est en cours, le temps de centraliser, de nettoyer, toilettage et toutes les opérations qui restent à faire, quand est-ce que vous pensez que nous puissions avoir des élections et si cela pourrait nécessairement respecter le délai constitutionnel?
Madame, je crois que peut-être qu'au vers la fin de la semaine, la CENI publiera les calendriers. Après avoir consulté tous les partenaires, il nous reste à consulter nos partenaires extérieure. Vous savez que nous avons connu une lourde perte, n'est-ce pas, avec le crash qui a emporté pratiquement l'ensemble de nos binômes étrangers avec qui nous travaillons au niveau de la MONUSCO et au niveau du PNUD. Mm-hmm. Nous devions laisser quand même les temps de deuil, et ce qui permet à ces structures de redéployer les nouvelles personnes. Donc, nous espérons que d'ici la fin de la semaine, nous aurons une réunion d'harmonisation et nous allons présenter les calendriers. Quels sont les principes qui nous guident? C'est d'abord d'éviter la rupture du cycle électoral. Il est important que nous puissions, à cet effet, respecter les délais constitutionnels, comme tout le monde le dit, et que nous puissions avoir les élections avant la fin de cette année, notamment l'élection présidentielle et éventuellement, si on peut, l'élection législative. Si nous arrivons à ce schéma-là, mais pour y arriver, il y a des contraintes. Et chacun de nous doit mettre. Première contrainte, c'est la contrainte juridique. Il faut que nous ayons le texte juridique, la loi électorale. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de la CENI. Deuxièmement, il y a des contraintes financières. Il nous faut, nous avons demandé plus ou moins 30 millions préalablement pour densifier les positions de fichiers électoraux et acheter notamment les VSAT qui vont nous permettre la transmission en fluide, n'est-ce pas, de données sur le terrain au lieu de faire ça par tête, par vélo ou par pluie qui se perdent et qui nous amène à des longues périodes, n'est-ce pas, voire 26, 27 jours pour les élections présidentielles. Il faut ensuite le contexte logistique. Il nous faut des moyens pour acquérir la mobilité, les motos pour remplacer les vélos ou même des motos là où il n'y en a pas. Si tout cela nous est mis en place et il y a des signaux que ça va se faire, nous pouvons organiser les délais, les élections dans les délais. Mais il faudra, comme je l'ai dit, que ces préalables soient, n'est-ce pas, remplis par les uns et les autres.
Donc les électeurs peuvent continuer à espérer que probablement il peut y avoir des élections.
Ils ne doivent pas espérer. Ce pays ne doit pas subir le système de démocratie intervallique où il y a élection et puis il y a plus de négociation. Non. Nous devons aller dans la logique du suffrage avec les souverains primaires qui désignent librement et dans la crédibilité ces institutions. Parce que les institutions légitimes sont des institutions stables et amènent le développement.
En tout cas, merci beaucoup, professeur Jacques Boli, d'avoir participé à cette émission. Et nous vous remercions à tous les auditeurs qui nous ont écoutés ou qui ont participé. Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons parler de la malnutrition, de questions, quelle est la situation chez vous et que faire pour y remédier. Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet ca@radiookapi.net. À la prochaine.